CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Hola. Hola, todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Bravo, Georges Bonfils. Bravo. Il est en train de nous servir quelques verres de polisson. Le polisson, c'est un Malbec rosé qui a une vraie couleur de bonbon. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses, Christophe ?
Un bon Côte du Lot. On avait reçu le vigneron ouais. Il y a 15 jours, 3 semaines.
Je sais plus. Ouais.
Un vin fort agréable, un petit rosé frais.
Il est bien frais. On va se faire ça.
Je vous dans le Lot, ils en font. Mais il y a pas longtemps qu'ils font des rosés, une dizaine d'années à peu près.
Oui, mais c'est
rosé blanc et puis finalement les vins sont bons.
Eh ben oui.
Comme quoi, sur tous les terroirs, on peut faire des surprises.
On peut faire ce qu'on veut. On va se déguster, si vous voulez bien, un pâté des cochons d'abord aussi.
Hein,
on est allé chercher du pain. On va se faire ça. En attendant notre invité, parce que notre invité, David Makarowski, est apiculteur à Burgos. C'est lui l'apiculteur du rucher de Naples. Et il nous a contacté il y a quelque temps pour nous présenter son travail et nous faire déguster son hydromel. Donc il fabrique lui-même de l'hydromel. Donc on va déguster ça tout à l'heure et il nous racontera un petit peu son parcours. Je sais que entre le moment où il nous a contacté et aujourd'hui où il va venir nous rendre visite, il a beaucoup plu et malheureusement il a perdu quelques ruches dans des inondations. Du coup, il a besoin d'un petit coup de pouce.
Déjà que c'est difficile avec les abeilles en ce moment.
Ouais.
Plus la météo aussi, mais.
Donc je sais qu'il est sur la route et qu'il devrait pas tarder à arriver. C'est Aurélien qui est à la technique de cette émission. On a un petit clin d'œil, une petite pensée pour Pascal Olivier qui est trop fatigué pour venir.
Trop fatigué,
feignasse.
Jeune ami qui va vendre du miel à 5 euros le kilo.
Pas cher.
Il est chinois, ton ami ?
Non. Pour l'instant, il a qu'une abeille, mais elle est malade.
C'est l'humour, Georges.
Georges, bon fils. Bon, tu vas nous expliquer pendant la musique.
Alors, pour la musique, ce soir, j'ai choisi de parler de Chuck Berry. C'était un des monstres de la musique du XXe siècle. C'est un précurseur du rock.
Oui, mais c'est pas lui qui démarre. On ne démarre pas avec Chuck Berry, hein, on est d'accord. Non, mais je sais plus où on en est, moi, dans cette émission. On démarre par trinquer et
bon,
écouter
de la
musique. C'est
déjà beaucoup.
Tu fais n'importe quoi.
Il est fort, ce rose, dis donc. Il est fort.
T'aurais pas fait l'apéro avant de venir.
À la tienne.
T'as notre prix.
On commence avec Joey Homicile, ce New Yorkais d'origine haïtienne. J'en avais déjà parlé il y a 15 jours, mais j'adore cet album, j'écoute sans arrêt en ce moment, donc en plus il y a un petit côté latino, il fait beau tout ça. Joey Homicile.
Et on va parler d'apéro ce soir.
Ah ben oui, on va parler... avoir les habitudes des Français au niveau apéro, et je suis un peu en avance au niveau des tomates, mais les tomates, est-ce que c'est un fruit ou est-ce que c'est un légume?
Vaste question.
Joey Homicile, tiré de son second album qui s'appelle Let's Bash, et d'après Georges Bonfils, notre spécialiste jazz, il joue un petit peu faux du saxo.
Non, à un moment donné, enfin, ça arrive de temps en temps qu'il y a une note qui coince, mais c'est saxo-soprano.
Saxo-soprano. Bon,
c'est ce qu'on appelle la carotte parce que c'est tout droit.
Très bien. Joey Homicile, avec les conseils quand même de Georges Bonfils, le maître du jazz.
Qu'est-ce qu'on déguste avec, donc pour le moment sur la table, un très chouette pâté qu'on connaît déjà parce qu'on vous l'a déjà présenté, des cochons d'abord, comment s'appelait notre invité des cochons d'abord, vous référez.
C'était il y a 15 jours.
Ouais, au podcast de l'émission d'il y a 15 jours. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on les enchaîne un peu entre lui et la
Nicolas.
Passe. Voilà, Nicolas.
Je n'étais point là, mais je vois Nicolas.
C'est ça, c'était Nicolas. Nicolas que vous retrouvez sur le samedi matin sur le marché des producteurs à Montauban. Et donc, il nous avait fait déguster ses splendides pâtés. Il nous en a laissé quelques-uns. Du coup, hop, on en profite. Je voudrais vous emmener du côté de Moissac.
Un petit tour à Moissac.
Ouais, parce que ce matin avait lieu en fait la présentation des festivités de l'été à Moissac. Alors vous savez qu'on est partenaire du Festival des Voix de Moissac. Pour cette raison, nous allons y faire un Qu'est-ce qu'on déguste au restaurant de Vazerac très très prochainement. Je crois que c'est le prochain coup. Hein. Non, c'est dans 15 jours qu'on y sera.
La prochaine fois, c'est Saint-Antonin.
Voilà, prochaine fois c'est Saint-Antonin, mais donc dans 15 jours nous y serons pour le 21e Festival des Voix des Lieux des Mondes. Et donc ce matin, il y avait cette présentation de ce festival, mais aussi des concerts du Parvis. Tu sais que tous les samedis en juillet et août, il y a un concert chaque samedi soir.
Pour la saison estivale,
d'accord. Ouais, sur le Parvis devant l'Abbatiale, là, c'est un endroit magnifique.
Concert gratuit.
Oui, c'est gratuit. Alors, il y aura Blazer Orchestra, Keizao, Chicken Groove, Salsa Parilla, Wonder Brass Band, Radix, Trio Tsatsali, il y a de tout. Hein. Et puis, on sait déjà que Ben l'Oncle Soul sera de la partie sur la saison culturelle de l'année prochaine, qu'Aldebert sera là également, et qu'il se passe plein de choses. Ce chouette rendez-vous, où on annonçait aussi les fêtes de Pentecôte, qui se déroulent à Moissac ce week-end.
De fêtes, ouais.
Ce chouette rendez-vous avait lieu dans un petit resto, un petit salon de thé qui a une certaine particularité, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse rencontrer Lydie Bellone, qui est la patronne de Skrakos.
Eh bien, bonjour, je m'appelle Lydie Bellone. J'ai monté, là, maintenant 4 ans, un salon de thé, mais qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire que ben, généralement, les gens, quand ils rentrent chez moi, ils savent pas trop ce que je fais. Donc, je fais salon avec petite restauration. J'essaye, bien sûr, de faire travailler les locaux. Mm-hmm. Je suis un petit peu contre la mondialisation. Donc, c'est pour ça que je pousse à faire découvrir les locaux. De par leurs produits, bien sûr, qui rentrent dans le salon de thé, mais également, à l'arrière-boutique, j'ai aussi tout ce qui est création. Création, je fais du scrapbooking et du boîtage carton.
D'accord, c'est pour ça que derrière vous, il y a...
Exactement,
c'est des papiers, j'allais dire, c'est
alors,
tissu, mais c'est
papier.
Des...
Non. Ouais. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des papiers italiens. Vous voyez ici aussi, au début, j'ai 80 couleurs différentes à peu près, en nuances. Donc là, c'est, je pense que j'ai une des plus belles collections du Tarn-et-Garonne. J'adore les papiers. Donc là, ici, donc d'autres papiers népalais à motif. Donc le papier népalais, il a l'avantage d'être travaillé facilement. D'ailleurs, là, on voit une table que j'ai complètement customisée, la rambarde. Elle me permet aussi de faire les boîtages comme ici, de recouvrir, donc plein de couleurs. J'ai des papiers italiens, j'ai plein de papiers. Et aussi beaucoup de fournitures pour le scrapbooking, donc entre autres les papiers. Donc là, vous pouvez voir donc mes différents scraps. Je travaille du scrap américain. C'est-à-dire que la différence entre l'européen et l'américain, c'est-à-dire que moi, il est un petit peu plus exubérant. Il y a plus d'embellissements et de choses comme ça.
Mais alors, quel temps ça vous laisse pour faire la cuisine?
Jamais. Je suis toujours en mouvement.
Pour faire la cuisine, quand même.
Si! Bon. Mais j'ai jamais temps pour moi. Enfin, oui, vous me voyez toujours en mouvement. D'ailleurs, vous voyez, je suis encore avec la cafetière à la mienne, prête à...
Très sympa, ce petit déjeuner que vous nous avez servi.
Et puis, vous avez remarqué aussi, je mets à disposition un piano et une guitare également, puisque c'était l'ancien Matin Musical, pour ceux qui connaissent Moissac. C'était un magasin de musique. Et donc, j'ai conservé l'esprit, un pianiste qui vient ou un artiste peut venir jouer. Mais aussi, puisque j'en profite, il y a aussi beaucoup d'artistes, que ce soit en peinture, en sculpture. C'est la raison pour laquelle je mets à disposition au-dessus du comptoir, au-dessus du bar, toute une possibilité d'exposer des tableaux. Donc généralement, et bien sûr, je suis pas une galerie, donc je ne prends rien. Mais c'est pour montrer qu'en fait, même beaucoup de Moissaguais ont des super talents.
Et alors, par exemple, à midi, si je viens manger ici, qu'est-ce que je vais
trouver? Eh bien, justement, c'est pour ça que pendant que vous étiez en train de parler, discrètement, j'étais en train de préparer ma tourte. Je vais faire une tourte porc. Je vais partir sur une idée pique-nique aujourd'hui parce que il va faire très chaud. Donc, je vais faire une tourte, je vais faire une quiche. Et bien sûr, j'ai toujours une salade, une grande salade composée, donc où je mets plein de petites choses dedans. Voilà.
Votre recette de la tourte?
Porc, bien sûr, que j'avais fait cuire au préalable, je l'ai haché, je l'ai refait sauter sur un lit d'oignons, plein d'épices. J'ai mis, ça c'est mon péché mignon, persil arabe, lui...
De la coriandre.
Merci, tout à fait. Des œufs, voilà. Et là, vous m'aviez vu tout à l'heure, pendant que vous discutiez en tablier, j'étais en train de préparer la pâte, bien sûr. Parce que j'essaye de tout faire maison, donc ce sont des pâtes maison. Donc je vais préparer ma pâte, je vais dresser à l'intérieur et je vais enfourner.
Comment s'appelle l'établissement?
Skrakos. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. C'est ce que vous alliez me demander. Non, parce qu'au départ, c'est vrai que je faisais beaucoup de scrap. Donc scrap, artcraft et autres, c'était déjà tout pris. Donc Skrakos. Mais je vous en prie.
Skrakos, 8 rue de la République à Moissac. Merci à Lydie de nous avoir concocté ce matin pour ce petit déjeuner de presse. Il y avait des petites crêpes miniatures, des petits croissants, des petits gâteaux. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Et puis elle est très sympatoche. Et alors l'intérieur de son resto est très chouette, très très, très décoré avec goût. Et anciennement le Matin Musical de Moissac.
Le Matin Musical.
Et c'était quand même l'endroit où
tous les musiciens,
enfants, jeunes, nous allions acheter des disques pour commencer, et puis en suivant, voilà. Maintenant, donc, on va y faire du scrapbooking et y manger les délices de Lydie. Notre invité est en train d'arriver. David Makarovski, finalement, est presque à l'heure. Il est apiculteur. Il est apiculteur, il nous a apporté de l'hydromel. Normalement, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? Oh là, bon, il va nous expliquer tout ça dans un instant. Le temps qu'il s'installe, un petit peu de jazz, Georges. Ah oui, t'as encore la bouche pleine.
Et oui, il a encore le pâté.
Le pâté est très bon. Donc oui, j'ai choisi aussi aujourd'hui de parler de Chuck Berry parce qu'il est décédé il y a 2 mois. Et Chuck Berry, c'est un peu le créateur du rock et un des musiciens les plus importants du 20e siècle. Ça, à l'origine, c'est un bluesman qui jouait tranquillement du blues avec son pianiste attitré Johnny Johnson qui l'a suivi pendant pas mal d'années. Mais un jour, il a eu l'idée de chanter du rockabilly pour attirer un peu la clientèle blanche. Alors, il a chanté du country rock, du country, et ça l'a fait connaître. Il est rentré dans la maison de disques Chess et il a enregistré un disque qui s'appelle Maybelline, qui en 1955 l'a mis directement dans les charts et il l'a fait connaître. Et il a continué à jouer pratiquement toute sa vie jusqu'à plus de 80 ans. Il avait une guitare désaccordée et il commençait à chanter un morceau et le public finissait le morceau. Bon, c'était un peu sketch. Il est venu à Montauban en 95 où il avait fait un très bon concert. Là, nous l'écoutons dans un des multiples titres qui s'appelle
Around
the Round.
Un titre.
Multiple titre.
Ah bon, oui, applique-toi, s'il te prie.
Oui.
Il est décédé très vieux, du coup, je suis en train de réaliser.
Il est décédé à 90 ans.
Ah voilà, 90. Ben oui. They say the joint was rocking, going round and round. Yeah, really
crazy sound. Will he never stop rocking till the moon went down? Oh, it sounds so sweet. Gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, clapping my hands. Well, the joint started rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Could it never stop rocking till the moon went down?
Les riffs sur le blues de Chuck Berry, le titre était Around and Around.
Around and Around.
Bah dis donc, là tu l'as bien dit. C'est qu'est-ce qu'on
ça
déguste.
Ça arrive des fois.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? Alors, en attendant David, nous avons dégusté les polissons, ce rosé de Malbec qui nous avait été apporté il y a quelque temps par son viticulteur.
Le
vigneron. Ouais. Mais on va retrouver, hein, Aurélien, on va retrouver en regardant qui c'est qui nous avait apporté les polissons sur les podcasts du site internet, pour retrouver le nom de vigneron et puis lui rendre hommage puisqu'on est en train de boire son vin.
C'était Benoît Aymar.
Voilà. Et on est en train de déguster aussi le pâté de Nicolas Descochons d'abord, que vous retrouverez donc demain matin au marché des producteurs de Montauban. Cochon bio, hein, je le rappelle, du côté de Ginals, ou de Verfeil, je ne sais plus. Non, Ginals.
Ginals.
David Makarowski, vous êtes apiculteur au Burgos, dans le 31.
C'est vers Fronton.
C'est vers Verdun-sur-Garonne, après Verdun-sur-Garonne,
voilà,
par là-bas.
Ça, après Verdun-sur-Garonne.
À l'est de Grenade.
C'est connu le Burgos.
Ou au sud de Grenade.
Anima Park. C'est très connu pour Anima Park.
Anima Park.
Voilà. Oui, c'est un bar avec une scène de théâtre. Où
non, ça c'est le café du Burgos, vous parlez.
Oui.
Ah, c'est le café.
C'est au même endroit ou pas, hein?
Bah, c'est au même endroit.
Parce que moi,
ouais,
je connais ça aussi. Ça existe, ouais, encore,
ça existe,
tourne
encore, ouais. C'est associatif et ça tourne encore.
David, il va falloir parler bien dans le micro. Hop, rapprochez-vous un peu. Vous nous avez contacté en nous disant que bon, vous étiez apiculteur et que vous faisiez de l'hydromel et que vous vouliez nous le faire déguster. Donc nous, vous savez, à partir du moment où il y a à déguster, on est ravis. D'abord, merci de votre initiative et faisons connaissance. Vous nous raconterez tout à l'heure votre dernière mésaventure parce qu'entre temps, il y a eu de l'orage et c'est dramatique ce qui vous arrive. Votre rucher a été emporté par une vague d'eau. Donc on va y venir. Racontez-nous d'abord votre parcours, s'il vous plaît.
Ben, l'apiculture c'est une passion, hein. Ouais. C'est on commence avec une ruche, deux ruches et puis on se retrouve avec un.
Vous avez commencé quand?
Un petit cheptel. L'installation ça a été en 2011. Il faut savoir que pour s'installer comme professionnel, il faut arriver à 200 ruches. Donc sinon on n'est pas.
Sinon on est amateur.
Voilà, on est amateur quoi, ou cotisant, solidarité ça s'appelle. Donc voilà, c'est une passion. C'est après, c'est.
Mais il faut vraiment que ce soit une passion. Comment vous avez eu, je sais pas, la première fois une première ruche et puis
vous êtes tombé. C'est parti comme ça. Ouais. Et après,
par plaisir, par jeu, par vous faisiez plaisir, quoi dans la vie si vous n'étiez pas apiculteur?
Non, après j'étais dans l'aluminium et puis ça a été une reconversion.
Donc, d'accord.
Et que je ne regrette pas puisque je travaille pour moi. Je fais des heures supplémentaires, c'est vrai. Je compte pas mes heures de travail, mais j'aime ce que je fais, quoi. Voilà.
C'est un travail passion.
C'est un travail passion, voilà. Mais on touche à tout. C'est un métier très très vaste où on va faire le menuisier, on va faire, je fais le viticulteur puisque je fais l'hydromel. Donc le miel qui est un produit. Après il y a les dérivés, il y a les bougies, il y a plein de choses. Hein. Qui touche à l'apiculture.
À partir du miel, ouais. Donc voilà. Produits et dérivés. Ouais.
Donc la propolis, qui est très efficace aussi pour la santé.
Comment vous avez appris votre métier?
J'ai fait des formations. Puis après j'ai eu des mentors comme tout le monde qui m'ont.
Il y a des formations où dans le coin?
Il y a une très bonne école à Haute-Rive, une école d'apiculture où les jeunes sortent avec un diplôme et peuvent s'installer comme professionnels si les banques leur accordent des prêts, tout ça. Donc voilà. L'école est très très bonne à Haute-Rive. C'est très poussé, ça dure presque 8 mois. Donc ils sortent avec...
D'accord. Donc vous avez fait cette école-là?
J'ai fait une bonne formation là-bas.
D'accord.
J'étais installé déjà. J'ai fait une formation là-bas pour l'élevage des rennes.
Ouais.
Parce qu'on élève les abeilles. Voilà. Savoir que chaque abeille peut être une reine.
Mm-hmm.
Il faut qu'elle soit juste nourrie avec de la gelée royale pendant plus de 3 jours.
Ah, y a des gens, ils font que ça. Ils sélectionnent presque génétiquement les reines. Et ça peut se vendre très très cher, une reine. Tu sais que ça peut se vendre très très cher. Hein. Il y a
une reine par ruche, c'est ça?
Oui, comme dit Rémi, une reine, ça peut se vendre 150-200 euros. Oui.
Ouais. C'est l'élément clé, finalement.
Ça, c'est des reines sélectionnées, quoi. On appelle ça des F1, quoi. Voilà. Bah, en général, c'est sur des îles qu'on élève ces reines-là. Parce qu'il y a pas, il y a les mâles qui vont féconder cette reine, qui vont être adaptés. Voilà, c'est la même race, c'est des pures races.
D'accord.
Sur une île, c'est très simple de faire ça.
Parce qu'elle peut pas se contaminer entre guillemets.
Voilà, donc, ou alors c'est l'insémination artificielle.
Et alors vos reines, c'est vous qui les faites ou vous les achetez?
Oui, j'ai fait. Par contre, là, j'ai eu un geste de solidarité de mes collègues là, parce que je suis allé ce matin à. Dans le 32 et ils m'ont préparé des reines. Je suis allé chercher 50 reines ce matin pour m'aider à
suite à ce qui vous est arrivé. Ben parlons-en de ce qui vous est arrivé alors du coup. Donc vous avez combien de ruches normalement?
Ben je suis à 200 ruches et sur ce rucher j'avais 50 ruches qui étaient alignées. Et
elles étaient où?
Elles étaient en contrebas du Burgot, au bord d'un tout petit ruisseau, je dirais qui coule comme le petit doigt. Et vraiment un truc de fou, quoi.
Et donc il a beaucoup plu, le ruisseau s'est rempli.
Un tsunami, vraiment.
Et ça a emporté vos 50 ruches.
On voit, quand je suis arrivé sur le rucher, j'ai cru qu'on m'avait volé les ruches tellement que...
Tellement
que c'était propre, ça avait emporté toutes
les palettes. Ça avait de la force donc, ça a embarqué les ruches.
Toutes les palettes, toutes les ruches. J'ai retrouvé une des ruches à 500 mètres. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon, c'était plein de boue, les abeilles sont...
Les abeilles sont mortes.
Ouais, quasiment. Il y en a que j'ai même pas retrouvé. Sous des branches.
Sous la boue.
C'est triste, quoi, parce que
ça
arrive tous les 15 ans. Le maire m'a dit que c'était déjà arrivé. Mais bon.
Que le petit ruisseau...
Ouais, ce petit ruisseau avait débordé déjà Mais vraiment, c'était vraiment impressionnant.
Alors, 50 ruches, c'est un quart de vos ruches quand même là, qui disparaissent. Donc, j'imagine que c'est important.
C'est pas rien, ouais. C'est pas rien. Puis bon, tout le travail que ça représente et le temps passé à s'en occuper, à soigner, à diviser, à contrôler cadre par cadre, quoi. Parce que c'est ce qu'on fait.
Alors moi, c'est un grand mystère pour moi, les ruches. Je sais qu'il y a une boîte, de temps en temps, il y a un mec en combinaison qui arrive, les abeilles font bzz bzz autour et hop, il y a du miel. Mais entre-temps, je sais pas trop ce qui s'est passé. Si, je sais qu'elles sont parties butiner et qu'on a posé les ruches aux bons endroits pour faire soit un miel plein de fleurs, soit un miel d'acacia, soit un miel de ceci ou un miel de cela. Mais comment ça marche de A à Z? C'est ce que je vous propose de nous expliquer dans quelques minutes. David, je vais essayer de dire votre nom correctement, Makarovski.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Ça marche. David Makarowski, notre invité dans Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui. Si vous voulez comprendre de ce dont on parle, vous allez sur son site internet. Alors, vous tapez dans Google le rucher de Naples. Voilà.
Info. CFM. Les infos.
Bonsoir, bonsoir à tous. Le retour de Thomas Pesquet sur la Terre ferme après plus de 6 mois dans l'espace. Il se sent bien, c'est la NASA qui l'a dit. L'astronaute français qui a même eu le temps de passer un coup de fil à Emmanuel Macron.
Oui, allô ?
Oui.
Bonjour Thomas, bravo, bravo, vraiment bravo à vous.
Merci Monsieur le Président.
On est tous et toutes très très fiers de vous.
Je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ce retour et puis de m'inviter.
Bon, comment vous vous sentez ?
Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je me réhabitue doucement à la gravité. Ou même tenir ce téléphone, ça me... c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois. Mais non, ça va très bien. On a tout bien passé. Le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide. Et puis, on sent très bien. On s'était préparé à ça. On va très, très bien. Merci beaucoup.
Après un séjour de 196 jours dans la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet est donc revenu grâce à la capsule du vaisseau Soyouz, piloté par le russe Oleg Novitsky, qui est rentré avec lui. 400 kilomètres un peu particuliers, très délicats, mais finalement réussi 5 sur 5. Et justement, après son atterrissage dans la steppe kazakh, Thomas Pesquet a dû être porté en position assise par 2 hommes. Il va maintenant repartir en Allemagne, direction le Centre européen des astronautes à Cologne. Il faudra ensuite que l'équipe médicale surveille la réadaptation à la gravité du Français. Outre Emmanuel Macron, les réactions sont nombreuses ce soir de la part de la communauté scientifique qui fait le lien avec la planète et sa sauvegarde, sujet ô combien d'actualité aujourd'hui également après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Retrait qui n'en finit pas d'être commenté sur les réseaux sociaux et que la plupart des autres pays signataires déplorent d'une seule et même voix, à commencer par la France qui s'efforce de prendre la tête de la contre-offensive européenne sur le climat après ce retrait américain. Côté cours, à Roland-Garros, la française Kristina Mladenovic est qualifié pour les 8e de finale. Lucas Pouille, lui, joue en ce moment même contre Albert Ramos. Raphaël Nadal s'est qualifié pour les 8e en moins d'une heure et demie de jeu cet après-midi. En revanche, c'est moins facile en ce moment pour Novak Djokovic qui affronte l'Argentin Schwartzmann. Excellente fin de journée à vous.
CFM.
Nord-Midi-Pyrénées.
Nord-Midi-Pyrénées.
L'esprit rock. CFM à Montauban.
Montauban.
101.2. 101.2.
Une prime d'achat de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf. Ça, c'est une aubaine. Chez A Loisirs, venez découvrir une grande sélection de vélos, des électriques, des vélos de route, des VTT ou VTC. Un grand choix vous est proposé, neuf ou d'occasion, en vente ou en location. Eric et Sylvain vous accueilleront avec plaisir. A Loisirs, le vélo plaisir. Société A Loisirs, 3130 Route du Nord à Montauban. Plus d'infos sur aloisirs.fr.
Samedi 10 juin, Festival Blas, 4e édition. Dès 19h, 5 groupes. Noir Désir by Le 4 Noir. Téléphone by Interphone. Alchimie Original French Metal. Motorhead by les Italiennes Queen and Ace. Et Metallica by Some Kind of Monster. Que du bon et grande soirée en perspective le 10 juin pour le Festival Blas. Buvette et restauration sur place. Tout est prévu car rien n'arrête le rock. Organisé par Sonar Events, itinéraire fléché, entrée 5 euros et parking sur place.
Du 1er au 22 juin, 24e Open de Montauban de tennis. Inscrivez-vous. Le tournoi régional débute le 1er juin avec les tableaux dames et hommes de non classés à première série faisant partie du circuit des raquettes de la Dépêche du Midi. Mais aussi les tableaux spécifiques pour les plus de 35 ans et les tableaux jeunes de 11 à 16 ans. Inscrivez-vous sans tarder. Pour tout renseignement et inscription, site internet de la FFT, rubrique Mon Espace Tennis ou au 05 63 03 30 38. 05 63 03 30 38.
Bienvenue.
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Pierre, chanteur de Radio Elvis, est notre invité dans PCV cette semaine.
Au loin, les pyramides, le cours de notre enquête.
Le premier album de Radio Elvis s'appelle Les Conquêtes.
Hola, hola, hola.
Radio Elvis dans PCV, tous les jours à 9h30, 15h40, 18h50.
Ralentir un peu.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7.
Hola. Hola a todo el mundo.
Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Alors, notre invité aujourd'hui, c'est donc David Makarowski. Il est apiculteur au Burgo, dans le 31. C'est le rucher de Naples. 200 ruches, donc, moins 50, malheureusement, puisque vous venez de nous raconter cette mésaventure.
Ça couine.
Donc, continuez, puisqu'on est en train d'œuvrer pour ouvrir votre bouteille d'hydromel. Continuez, si vous voulez bien, de nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, vous êtes au Burgo, vous avez 200 ruches qui sont positionnées comment, comment ça marche un peu?
Après, j'alterne sur, bien là, j'en ai sur du bio. Beaucoup d'agriculteurs sont passés en bio sur le Burgo. Et puis bon, j'ai un handicap au genou, donc pour l'instant je transhume peu.
D'accord. Voilà, donc vous restez aux alentours de chez vous. Elles sont plutôt fixes.
Ouais, c'est plutôt fixe. Après, j'élève beaucoup bien d'abeilles autour de chez moi. Mm-hmm. C'est-à-dire, je fais des petits essaims que je fais arriver à maturité, puis après l'essaim se développe quoi.
Donc on fait ça, des petits essaims?
Ben déjà, il faut élever des reines. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on sélectionne une ruche, on fait du greffage, on appelle. Et une fois qu'on a la reine,
c'est-à-dire on fait du greffage.
C'est-à-dire qu'on va prélever des bébés larves, des bébés d'abeilles de moins de 3 jours, et on va introduire ça dans une ruche orpheline. Les abeilles, comme elles sont en situation d'échec, vont élever des reines. Donc on peut mettre des barrettes de cellules comme ça, et on peut en mettre jusqu'à 45.
Ça c'est ce que vous nous avez emmené là par exemple, ça au départ, donc c'est un cadre de bois. Dans ce cadre de bois, il y a quoi au milieu? Il y a rien normalement?
Si, il y a deux fils de fer en inox, et après on met une amorce de cire. Et les abeilles bâtissent la cire complètement et remplissent chaque alvéole avec le miel.
Voilà.
Donc après voilà, c'est le miel qui est différent. C'est à l'état brut là. L'état brut, après le goût est complètement différent.
Mais là-dedans, il y a pas de bébé, il y a pas de larve, il y a rien. Non, non, non. Là, ça c'est que du miel.
Ça,
où est-ce que se mettent les bébés et tout
on
ça?
Récupère le miel dans la partie supérieure de la ruche, dans la hausse, on dit, et dans le corps de ruche, c'est là que se trouvent les larves, le miel, le pollen mélangé, voilà. Et elles ont besoin du pollen pour faire des larves, pour faire la gelée royale aussi.
Après, vous filtrez le miel, du coup?
Quand on le passe comme ça, quand on désopercule, on est obligé de le filtrer parce qu'il y a toujours des particules de cire, quoi. Donc ça passe à la centrifugeuse. Voilà. Après, le goût comme ça, c'est vraiment incomparable. Voilà.
Alors, ça passe à la centrifugeuse parce que pour vous, ça paraît naturel, mais pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire passer à la centrifugeuse.
La centrifugeuse, c'est comme si c'était une grosse machine à laver.
Ouais.
Pour simplifier, le miel l'inertie là, va se plaquer contre les parois. Et après, en bas, il y a un petit robinet.
Force centrifuge qui fait que le miel se détache, va sur les côtés.
Tout à fait.
Et puis, comme il coule mieux que la cire, c'est ça? Non, comment on sépare la cire de...
Non, la cire, en général, reste sur le cadre.
D'accord.
Il y a très peu de cire qui est projetée. La cire reste sur le cadre, et puis après, on peut la réutiliser.
D'accord.
Voilà, donc on gagne du temps.
Ah oui, parce que sinon il faut que les abeilles elles reconstruisent tout voilà. Alors que là elles font que réparer les trois trucs qui sont.
C'est pour ça que le miel en rayon, on mange tout. On mange du miel avec la cire.
D'accord.
C'est pour ça que c'est un goût différent, mais au niveau goût c'est incomparable. Chaque alvéole donc est rempli de miel et les gens ne savent pas, mais le petit bouchon c'est l'opercule là. C'est un bouchon qui laisse sortir l'humidité. C'est une membrane et l'humidité ne rentre plus. Donc avec le temps, il va s'affiner. Le miel est fait avec un gros pourcentage d'humidité. Donc cette membrane va la laisser sortir.
D'accord. Voilà. Et donc, nous allons bientôt déguster l'hydromel du rucher de Naples. Mais en attendant, intéressons-nous à l'apéro.
L'apéro, un moment qu'on aime bien dans cette émission.
Ah bah tiens, ça. Il ne manquerait plus qu'on l'aime pas.
Si l'entrée et le dessert désertent de plus en plus le repas des Français, bien le rituel de l'apéritif, lui, tient solidement la barre. On badine pas avec la convivialité et ce moment de partage souvent alcoolisé et régressif, hein, il faut dire. D'après une étude de Deliveroo, 76% des Français en profitent au moins une fois par mois pendant l'été. et 66% en moyenne durant l'année. Avec la chaleur qui grimpe, attention, le rythme s'accélère. 57% des Français s'adonnent à la convivialité d'un apéritif au moins une fois par semaine. 34% plusieurs fois par semaine.
Ah.
Et à l'échelle régionale, il faut savoir, ça m'a un peu étonné, que les Strasbourgeois sont les plus nombreux à ne pas manquer ce rendez-vous hebdomadaire. Ils sont 36%, devant les Lillois, 34%, et les Bordelais, 31%. J'ai pas de chiffres qui concernent la région toulousaine, mais à mon avis, on est quand même bien placé.
Parce oui, que l'apéro,
oui, quand même
60% qui feraient ça qu'une fois par
mois.
Ou
alors, les gens mentent aussi, peut-être.
Une seule fois par mois.
Ils voient ça à la baisse, mais oui, certaines.
Je bois l'apéro une fois par mois. 60% des Français, l'apéro une fois par mois.
Ouais, si on considère qu'il y a toute la France, c'est-à-dire les personnes âgées et tout ça.
Et sur toute l'année.
Oui, mais enfin, les personnes âgées, t'en fais partie, tu bois tous les jours, toi, non?
Pas complètement âgé.
Il y a des gens qui vont pas complètement à jeun, c'est ça qu'il avait dit.
60% sur l'année, donc du coup ça remonte quand même à 57 une fois par semaine, hein, pour les beaux jours, pour l'été.
D'accord,
pas mal.
57 une fois par semaine.
Voilà.
Bon et tous les jours comme nous.
Hein, toi tous les jours.
Non, enfin, tous les jours. Enfin, 3-4 fois par 3-4.
Avec modération.
Mais oui, mais tu peux boire
3-4 fois par jour. Non.
Tu peux boire un apéro tous les jours. Tu peux boire un verre de vin blanc. T'es pas alcoolo.
Non. Si au quotidien, un petit peu quand même.
Allô, docteur.
En tout cas.
D'après le corps médical, oui.
Ah.
D'après les viticulteurs, non.
C'est ça.
Le lieu de l'apéro, la plupart du temps, c'est à domicile, hein, pour 70%. Chez des amis, 48%. Et qu'est-ce qu'on boit? Eh bien, le vin est favori à 34%. Avant les cocktails. Ça m'étonne un petit peu, 29. Les soft,
si, ça a beaucoup.
27.
Attends, parce que
c'est la mode des cocktails.
Mais
donc.
Oui, tu vas n'importe où, ils boivent tous du caipirinha ou des avec.
Ah oui, le mojito.
Avec
oui,
du mojito,
oui,
ils boivent
vrai,
tous du
vrai,
mojito là. Mojito. Et
y compris les cocktails gin fizz qui reviennent.
Voilà,
aussi,
les filles boivent du lillet avec.
Ah oui, oui,
oui,
c'est
oui,
vrai,
si, oui, si, ça cocktailise à mort là en ce moment.
Le lillet, c'est du vin là.
De Bordeaux.
Ouais, mais sauf qu'ils mettent.
Ou du gin ou.
Lillet, gin, des glaçons, du sirop. Enfin, ça fait cocktail quoi.
Non, mais c'est quand même le vin en numéro 1.
Oui, tout à fait. 34%. La bière, un petit 22. Et les alcools forts à 22. Bon, les alcools forts à l'apéro.
La bière, c'est quand même un des produits les plus consommés.
D'après mes chiffres, non. Et les apéritifs amusés à 17. C'est une étude Deliveroo. Je l'ai pas inventé, hein. En guise de grignotage, cacahuètes, pistaches et noirs remportent la mise à 66%, devant les biscuits apéro 59%, les légumes et autres crudités à 55%, enfin les traditionnels et classiques chips à 50%.
50% les chips.
Eh oui, on prend du gras à l'apéro aussi. D'une certaine façon, donc le petit côté régressif et anti-régime de l'apéritif vient contrecarrer la tendance un peu au soft et au régime, globalement. Mais ça reste un moment fort apprécié des Français. L'apéro.
Et alors, toi, l'apéro, par exemple, quelle est ta boisson préférée, Christophe?
La bière, ouais. En priorité. Ouais,
quel type de bière?
Bière du Nord, style la Goudal.
La Goudal, ouais. À l'apéro.
Bonne vieille Goudal.
Les bières belges ou allemandes, belges.
Mes cœurs un peu, la Lef, etc. Plutôt Nord de la France. Goudal, c'est très bien.
La Goudal.
Ouais. Un peu amer, quand même.
Je connais pas la Goudal.
Georges, toi, l'apéro?
J'aime bien le vin blanc à l'apéro ou le whisky.
Bah oui, je te vois plus souvent au
tu
whisky
bon
à l'apéro qu'au vin blanc.
Et quand tu viens à la maison, tu prends du whisky aussi.
Bah oui, non mais je t'incrimine pas.
Parce que chez toi, il est bon.
Chez les bons fils. Oui, ah bah chez lui, il vaut mieux. Non mais chez les bons fils, madame est au vin blanc, monsieur est au whisky.
Oui. Par contre, quand le whisky ne me convient pas, il est pas bon et qu'on me propose un mauvais whisky, je dis non.
Ouais,
je dis à mes amis, bon, merci. Pour le whisky, il faut au moins minimum cette marque.
Voilà.
Ou cette qualité.
Ouais, alors une marque de whisky, tiens, ce que tu as en ce moment là.
Ah, ce que j'aime bien, moi, c'est le Lagavulin, les whiskies tourbés, ou la Froley.
Ouais.
Aussi, c'est pas mal.
Et Aurélien, c'est quoi toi ton apéro?
Oh, la bière aussi, pas mal.
La bière. Ouais. Et David, vous, l'apéro, c'est quoi?
L'hydromel, moi.
L'hydromel. L'hydromel à l'apéro. Bah, tiens, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'hydromel à l'apéro.
Alors ça s'est perdu, l'hydromel. Hein,
en guise de chips, on a droit à ce miel.
C'est la totale miel.
Découpé directement, donc avec la cire et tout, là. Alors, j'attaque ça.
Même là, on peut manger la cire. Alors, moi, j'avais déjà mangé. Mmh. Et la cire était devenue pâteuse. Et c'était un vrai chewing-gum.
On ressent vraiment.
Elles font dans la bouche, ouais,
le goût du miel.
Ah ouais. Le goût du miel est fabuleux.
Ah, c'est sympa. Hein.
Ah, mais oui. La cire, c'est pas dangereux, ça fait pas des trous dans l'estomac.
Non,
c'est ça te le transite, justement. Après, il y a cire et cire, hein. Je veux dire, voilà, elle est toute fraîche, quoi.
Ah oui, c'est délicieux,
c'est
votre truc.
De l'année.
Ça, c'est vrai que c'est vraiment bien.
C'est du miel d'acacia?
Je dirais un mélange d'acacia et de printemps.
Voilà. C'est de l'acacia.
Ouais.
Mmh. Puis avec ça, t'es boosté pour la soirée, à mon avis, il y a quand même.
Ah, mais dans plein le miel, ça donne la pêche. Ah, quoi. Oui.
Alors, on attaque avec Grillon, hein. On attaque avec le miel. On va attaquer avec l'hydromel. Un petit peu de musique pour qu'on commence.
On écoute Chuck Berry ou on écoute.
Une petite Devin's Dude alors. On part au Texas, c'est bien de Houston et c'est son 10e album. Devin's Dude, du boy pop, très très tranquille, très cool.
Chine, on traque à l'hydromel, allez. Santé. Say no. Can I be the one you're waiting for? Can I be the only one with the key to unlock your door? Can I be the one you're saving it for? Can I be the one next to you in the morning when you wake and see the sun? Can I be the man that you've been looking for since your heart's been stranded, abandoned, broken, left unattended? I do my Al Green thing, how can I mend it? I won't be back and forth like tennis, I'm in it to the finish, feelings never diminish. Yo, I'm kinda private though, cause if everybody know, they'll put it all off in the streets like a sideshow. And you know I like to travel, but you don't have to worry, you'll go everywhere that I go, as long as I know. Can I be the one you can't turn down and won't say no? Can I be the one you're waiting for? Can I be the only one with the key to unlock your door? Can I be the one you're saving it for? No promises, I'ma just do my best. Previous, I was devious, wasn't true, I guess. Now I'm a brand new man. I learned to stand through rain, learned to give and not to wait for folks to hand you things. I can come to you, girl, wherever you be. Or you can run to me like SWV. Couple of my friends saying that you're trouble to me. But shit, how can you help it when you love what you see? I know you got choices. In your ear a lot of voices. Tell them niggas to hold their horses. Cause I'm here, my dear girl. And I ain't gonna leave till I see, girl. Can I be the one you can't turn down and won't say no? Can I be the one you're waiting for? Can I be the only one with the key to unlock your door? Can I be the one you're saving it for? Can I be the one you can't turn down and won't say no? Can I be the one you're waiting for? Le morceau Canaille de l'enfumé Devin's Dude, c'est sorti le mois dernier, son dernier album à ce texan, Devin's Dude. The Dude, ça me fait penser à un film
The Big Lebowski.
C'est ça.
Ben ouais. Ah oui, pareil.
C'est en rapport avec ça.
Je pense que ça référence à ça, ouais.
D'accord. Qu'est-ce qu'on déguste de l'hydromel, monsieur, dame? Le rucher de Naples, c'est David Makarowski, et c'est lui qui nous a apporté donc cette hydromel qu'on est en train de déguster avec, en guise de cacahuète, du miel dans sa cire, hein, et tout cela est très très bon. Mais comment fait-on de l'hydromel au fait? Dites-moi, c'est quoi la recette?
Alors la recette, c'est déjà du miel, du bon miel de qualité, après de l'eau, hydro, donc eau, miel, et après c'est des levures œnologiques. De lui-même, le miel fermente quand même. Hein. Si on met que du miel et de l'eau, ça va fermenter. Mais on va avoir une fermentation qui va se stopper à 8 degrés. On va avoir que des levures lactiques. Alors que si on met des levures œnologiques, eh bien on arrive à des degrés plus importants. plus élevé.
Donc des levures œnologiques, ça veut dire qu'on met du raisin, des trucs qui viennent du raisin.
Des levures de bière qui sont étudiées pour le vin. C'est les mêmes levures que pour le vin. Donc voilà, on arrive à avoir un degré important. Je mets ça en fût de chêne.
D'accord.
Ouais, ça va rester bien 2-3 mois. Ça arrive pour que les degrés montent, quoi. Puis après, on stoppe la fermentation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne.
Et voilà. Antenne, ça sert à rien.
Après tout ça, il faut le filtrer parce que c'est très, très, très trouble.
Ouais.
Voilà. On voit pas à travers comme aujourd'hui.
Ah ben là, c'est joli, hein. C'est très joli. C'est leur miel.
C'est que c'est presque vinique.
Oui.
Et ça peut ressembler à un grand sauterne.
C'est ça.
Oui, voilà.
Ouais, tout à fait.
Mais il y a du raisin ou il n'y a pas de raisin?
Non, il n'y a pas de raisin. Il y a que des levures pour faire redémarrer la fermentation.
D'accord.
Ah, ça, ouais, ça fait quand même, plus de 10 ans qu'on fait cette émission. J'ai toujours pas compris ce que c'était les levures, quoi. Les levures, c'est pas un truc chimique qu'on achète en sachet.
Non, t'as des levures naturelles.
C'est des bactéries qui, transforment le sucre en alcool. Elles vont se nourrir.
D'accord. Et parce que, par exemple, moi j'avais vu des reportages, tu sais, sur le vin nouveau, le Beaujolais, où le mec, pour que ça ait un goût de banane, par exemple, il achète une levure qui va donner plutôt un goût de banane. Vous avez pas acheté des levures, me dites pas ça David, sinon on a pas de copain, qui donne le goût de l'hydromel.
Non, c'est
des levures.
C'est des levures standard, type sauterne aussi. On peut utiliser des levures de sauterne. Voilà, mais après le rendu, ça va être le miel que vous avez mis à l'intérieur. Et voilà, et puis après le temps qu'il a passé dans le fût, et puis voilà.
C'est vrai que c'est surprenant, ça peut vraiment concurrencer un bon vin.
Un bon sauterne.
Sauterne. Ça sur de foie gras, par exemple.
Avec des bouteilles à 30, 40 euros d'hydromel. Un très bon hydromel, déjà, là, il est déjà très bon, hein. Mais si on le boit 6 mois après, 8 mois après, 1 an après, c'est plus le même, déjà.
Ouais. D'accord.
Il va évoluer comment?
Il va s'arrondir, il va changer de couleur, même. Il va devenir plus ambré, plus foncé. Il va devenir plus fin, quoi. Au palais, comme un vin qui vieillit, quoi.
L'hydromel, on en buvait au Moyen-Âge, non? C'était pas, on mélangeait ça avec un peu d'épices et ça faisait le vin de l'époque, non?
Ouais, c'est ça.
Pas un peu ça.
Oui, ça date de...
Aux jeunes mariés aussi.
Ouais.
Pour qu'ils aient beaucoup de force, beaucoup d'énergie.
Ouais. La lune de miel.
Non, mais je vous le dis, ça marche, hein.
Voilà.
J'ai essayé pour vous.
Le Viagra.
De la vigueur.
Naturel, c'est l'hydromel. On continue notre conversation dans Qu'est-ce qu'on déguste avec David du Rucher de Naples, en dégustant donc cette hydromel et en écoutant Chuck Berry.
Alors Chuck Berry a fait ses principales compositions dans les années 50, mais là il y a eu du rock revival dans les années 60 quand les Stones et les Beatles ont repris les morceaux de Chuck Berry et les principaux groupes anglais. Là, nous allons écouter un des titres qui a été repris par les Rolling Stones, c'est Little Queenie.
Thinking. She's in the mood, no need to break it. I got a chance, I ought to take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go! Still thinking. If it's a
slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Let's get it.
Vous avez reconnu le riff de Chuck Berry qui a été repris par beaucoup de musiciens, notamment par Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones.
Oh yeah!
Bon alors j'essayais de mettre une publication sur Facebook pour vous montrer la bouteille. Vous me la passerez avant de la distribuer cette bouteille? Non, l'autre, parce que je voudrais la photographier et la mettre en ligne. Mais non, mais ouvre-la, tu peux l'ouvrir quand même. Ouvre-la. Et après je vais la photographier.
Pleine.
Pleine. Pour qu'on voit cette belle couleur, c'est vrai. Et que les auditeurs de CFM puissent, en allant sur notre page Facebook, constater la belle couleur.
Voilà, donc tu avais raison, Rémi.
Vous avez pourri la collerette quand même là. Enfin bon, c'est pas grave.
C'est bien la première boisson alcoolisée qui a été bue.
Ouais. C'est ça.
Avant la bière.
Avant la bière. Première boisson alcoolisée.
Ben, à l'époque, il y avait l'hydromel, et après, quand ils ont fait comment ça s'appelle, le vin, là, avec tous les épices aussi.
C'est l'hypocrase.
L'hypocrase, ouais, voilà. Mais d'ailleurs, il y avait de l'hydromel dans l'hypocrase, non? Ou il y avait que
non, c'est du vin blanc. Il y a du miel et du vin blanc, et après des herbes.
C'est le premier cocktail de l'histoire.
Des herbes.
Ouais. Et alors, vous faites de l'hydromel depuis toujours ou depuis que vous avez commencé ou pas?
Non, vous allez rire. La première fois que j'ai fait de l'hydromel, on teste la densité, vous savez, avec un densimètre. Et donc, quand la fermentation elle est finie, si vous mettez le densimètre dedans, il vous indique zéro. Donc, le premier hydromel que j'ai fait, je l'ai redonné à mes abeilles. Donc voilà, parce que la densité était zéro, donc j'étais un novice et j'ai cru qu'il y avait plus d'alcool, il y avait pas d'alcool. Et en fin de compte, j'ai tout redonné à mes abeilles, je pense qu'elles ont apprécié.
Ah oui,
Et ça, c'était quand?
Ça remonte à 5 ans à peu près. Voilà. D'accord. Après, donc ça, j'ai voulu m'y mettre, quoi. C'était.
Alors du coup, cet hydromel du rucher de Naples, fabrication artisanale, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, je vais le mettre sur Facebook. Hein. Allez, vas-y, tu peux servir, j'ai pris la photo. Du coup, on le trouve où? Combien ça coûte? Comment on se le procure?
Ben directement chez moi, chez le producteur. Voilà.
Au Burgo.
Demain, on fait les portes ouvertes. C'est les portes ouvertes de visite à la ferme.
Demain, là, directement, là, samedi.
Samedi, dimanche, ouais, il y a deux jours, là.
D'accord.
C'est portes ouvertes.
Ben, ça tombe bien.
Ça tombe bien. Ouais. Bon. Je suis revenu vous voir. Et voilà. Puis après, on fait déguster à la maison. Il y a toujours l'accueil.
Et après, vous faites pas de marché?
Si, on fait le marché de Fronton.
Ouais. Et quel jour le marché de Fronton?
Le marché de Fronton, c'est le jeudi matin.
Donc le jeudi matin, voilà. On trouve l'hydromel du rucher de Naples à Fronton.
Après, c'est pas mal de venir à la maison, mais d'appeler quand même avant de venir.
Ouais.
Parce que saison de printemps, là, j'ai énormément de travail.
Qu'est-ce qu'il faut faire à part trimballer les ruches de droite, de gauche?
Ben, vous avez les ruches à contrôler, à diviser. Si une ruche est trop forte et trop puissante, il faut la diviser, sinon elle s'en va.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On enlève des carrés comme ça, voilà, et on les met ailleurs.
On enlève des carrés. Une ruche, c'est entre 50 et 60 000 abeilles. Si vous avez trop de cadres de couvain à l'intérieur, c'est-à-dire
et ça
trop...
prend pas du temps pour les compter.
Si, ça prend du temps. Ouais. Non, mais on compte le nombre de cadres de couvain, c'est plus simple, c'est plus rapide. On compte le nombre de cadres de couvain et puis on fait une division. Voilà. Et, donc ça prend du temps, quoi.
On parle toujours de ce frelon asiatique qui nous bouffe les abeilles, du glyphosate qui nous fait perdre la boule aux abeilles et qu'elles ne retrouvent pas le chemin du retour. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui ou pas?
Oui, c'est un métier qui est compliqué. Le plus compliqué, c'est le varroa, c'est le parasite qu'a l'abeille sur elle. Voilà, c'est un tout petit parasite, comme un petit tic, qui est quasiment invisible à l'œil nu. On a ce parasite en France depuis 1982, si je me trompe. Mm-hmm. Et c'est vraiment une plaie. On l'appelle varroa destructor. Donc, ouais. C'est lui qui décime le plus les colonies que le frelon asiatique. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Il faut surveiller ça. Une ruche qui est en bonne santé, c'est une ruche qui a très peu de varroa.
Voilà. Et vous avez la chance d'avoir beaucoup de bio autour de vous, donc ce qui fait qu'elles sont pas trop touchées par les pesticides.
Voilà,
et
les
tout
pesticides, ça,
ça
joue. Ça, j'ai senti vraiment la différence dès qu'ils sont passés en bio. Voilà. C'est une année aussi cette année où j'ai vu énormément de bourdon, le bourdon commun. Hein, il est très sensible à la pollution celui-ci. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est un insecte qui pollinise énormément. Bon, l'abeille, c'est le plus gros pollinisateur, quoi. Parce que, il y a du monde, hein, dans une ruche, une colonie de bourdons, ça va être une vingtaine, une trentaine de bourdons. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, une ruche, c'est 50, 60 000 et bon, ça.
Bah, moi, je préfère compter les bourdons. La suite, qu'est-ce qu'on déguste? Dites donc, ça cogne un peu, ça, non?
Ça cogne, ouais.
Comment ça fait?
On est à 15, là.
Ah, ben voilà.
Oh, ben tiens.
Mais, tu vois, il faut que je change de lunettes. J'avais lu 13.
Moi, ça renforce l'amour.
Ouais, bah,
alors, je dis ça aux gens, mais je leur dis au bout de la deuxième bouteille.
Faire attention, quand même. Hein, ça cartonne, hein, ce truc-là.
Info. CFM. Les infos.
Bonsoir. Deux actualités majeures. Ce soir, d'abord, cet événement, le retour de Thomas Pesquet sur la terre ferme après plus de 6 mois dans l'espace. Et puis le choix de l'isolement. Donald Trump préfère se retirer de l'accord climat de Paris. Les réactions sont nombreuses. Reste maintenant à savoir comment il va faire. Thomas Pesquet est donc arrivé et il se sent bien, c'est la NASA qui l'a dit. L'astronaute français a même eu le temps de répondre au coup de fil d'Emmanuel Macron.
Oui, allô ?
Oui.
Bonjour Thomas, bravo, vraiment bravo à vous.
Merci Monsieur le Président.
On est tous et toutes très très fiers de vous.
Je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ce retour et puis de m'appeler.
Bon, comment vous vous sentez ?
Eh bien écoutez, ça va très bien. Je me réhabitue doucement à la gravité. Ou même tenir ce téléphone, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois. Mais non, ça va très bien. On a tout s'est bien passé. Le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide. Et puis on sent très bien. On s'était préparé à ça. On va très très bien. Merci beaucoup.
Après 196 jours dans la station spatiale internationale, Thomas Pesquet est donc revenu grâce à la capsule du vaisseau Soyouz pilotée par le russe Oleg Novitsky qui est rentré avec lui. 400 kilomètres, un peu particulier, très délicat, mais réussi 5 sur 5. C'est même un sans faute, d'après Claudia Aigneré. Elle est la dernière française à être partie dans l'espace.
Manifestement, tout s'est passé à la seconde près. C'est un petit peu la caractéristique du système russe, vous l'avez vu, pour le désamarrage, pour la séparation, pour l'impulse d'entraînage, pour l'ouverture des parachutes. On était presque à lire notre livre et ça se développait au fur et à mesure. Et moi, je l'ai trouvé très, très bien. Puis, il avait une voix dynamique, ferme, telle qu'on la connaît. Et c'était formidable.
Claudia Aigneré au micro de Boris Karlamov depuis le CNES à Paris. Le CNES où on a diffusé les images de l'atterrissage de Thomas Pesquet. Atterrissage dans la steppe kazakh. On a vu Thomas Pesquet être porté en position assise par deux hommes. Il va maintenant repartir en Allemagne, direction le Centre européen des astronautes à Cologne. Il faudra ensuite que l'équipe médicale surveille la réadaptation à la gravité du français. L'astronaute sera également soumis à une batterie de tests et d'examens médicaux à visée scientifique. Et les réactions sont nombreuses ce soir, notamment de la part de la communauté scientifique qui fait le lien avec la planète et sa sauvegarde. Sujet ô combien d'actualité aujourd'hui également, après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Ce retrait américain, justement, on en parle ce soir, bien sûr, alors que Donald Trump a semblé se mettre à dos quasiment tous les pays du monde qui, à l'exception du Nicaragua et de la Syrie, avaient tous signé l'accord de Paris. Il va falloir maintenant qu'il le mette en œuvre, ce retrait. Et il y a vraisemblablement, François Germain, plusieurs options.
Oui, premier scénario, les États-Unis demandent tout simplement à l'ONU de sortir de l'accord, mais ils ne peuvent pas le faire maintenant. L'accord le stipule, il faut attendre 3 ans après l'entrée en vigueur du texte, plus 1 an de préavis. Concrètement, la sortie effective aurait lieu en novembre 2020 en pleine présidentielle américaine. Deuxième option, un retrait dans 1 an, c'est possible. Il faudrait que Donald Trump dénonce la Convention des Nations Nations Unies sur les changements climatiques établi il y a plus de 20 ans. Mais pour ce faire, le président américain aurait besoin de l'accord du Sénat et rien ne dit qu'il serait soutenu. Enfin, comme Donald Trump semble le vouloir, on pourrait également se diriger vers une renégociation de l'accord avec des objectifs revus à la baisse. Rien dans le texte ne l'interdit formellement.
Au lendemain de cette annonce fracassante de Donald Trump, son administration, elle, semble vouloir calmer le jeu. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a déclaré que les États-Unis poursuivront leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de sports également ce soir, à commencer par Roland Garros. La Française Kristina Mladenovic est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est le cas aussi de Rafael Nadal qui s'est qualifié en moins d'une heure et demie de jeu. Lucas Pouille joue en ce moment contre Albert Ramos. En revanche, c'est moins facile pour Novak Djokovic qui affronte l'Argentin Schwartzman. De la boxe aussi, puisque le boxeur Tony Yoka entame à Paris sa carrière chez les professionnels dans la catégorie reine des poids lourds, avec une seule ambition, devenir le premier Français champion du monde dans cette catégorie. Et puis du foot, France-Paraguay ce soir, un match amical pour les Bleus avant d'aller défier la Suède dans une semaine dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Le Paraguay n'a pas le même profil que la Suède, mais c'est du solide, de quoi bien préparer ce match capital vendredi prochain pour Didier Deschamps.
C'est une équipe, oui, avec ses caractéristiques, elle est vraiment pas facile à jouer, elle sait très bien défendre. C'est dans l'agressivité, dans le duel, donc c'est bien, on va pas avoir une équipe qui va être relâchée, on va voir de l'adversité, donc ça c'est plutôt bien d'avoir un vrai match de préparation par rapport à ce qu'on aura dans une semaine. Mais ça sera une autre vérité dans une semaine.
France-Paraguay, c'est à 21h à Rennes ce soir. Enfin, à signaler des routes chargées et des Français pour la plupart en week-end de 3 jours. Lundi, c'est la Pentecôte. La journée est classée orange dans le sens des départs. Aujourd'hui, ce sera orange aussi demain. Et pour les retours, ce sera également orange lundi. Voilà pour l'essentiel. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et un très bon week-end.
CFM. CFM.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Si l'hydromel est le Viagra naturel, les filles, préparez-vous.
Ce soir, ça va chauffer.
Parce que, donc, on est en train de déguster l'hydromel du Rucher de Naples. David Makarowski ouvre ses portes ce week-end. Il ne sera plus question de dire on ne te voit plus aux soirées. Vous pouvez aller vous aussi déguster de l'hydromel ce week-end. Et en plus, blague à part, vous pouvez aller le faire en famille parce que c'est ça le but du jeu aussi. Allez voir, commencer avec les enfants pour la fabrication de l'hydromel, mais aussi tout simplement du miel. On va même pouvoir aller visiter les ruchers. Vous avez des petites combinaisons pour les enfants, pour les emmener au rucher?
Oui, j'ai des petites combinaisons pour les amener. Alors tout dépend de la météo, parce que s'il fait très mauvais, les abeilles vont être très très...
Quand il y a de l'orage, les abeilles, elles aiment pas.
Ouais, elles aiment pas ça, non. Elles aiment pas trop les parfums non plus.
Ouais.
Les parfums, ça agresse. Voilà.
Vous leur parlez à vos abeilles?
Je parle pas aux abeilles, non, ni aux chevaux.
Vous leur donnez un petit nom? Pomponnette.
Mais au début, quand on commence l'apiculture, oui, on parle, oui.
Ouais.
Parce que le soir, quand vous commencez l'apiculture, vous avez jamais fait. Le soir, vous fermez les yeux, vous entendez les abeilles.
Il n'y a pas une appréhension quand même, être en contact de tous ces...
Ça pique?
Non,
est-ce qu'elle vous pique des fois?
Ah, oui, tous les jours. C'est très bon le venin d'abeille. Ah, tout, je peux le dire à vos auditeurs, mais tous ceux qui ont de l'arthrose et de l'arthrite, c'est vraiment très très efficace. Ça se vend des milliers de dollars le kilo.
Oui, mais enfin, de quoi?
Le venin d'abeille.
Le venin d'abeille. Il y en a qui se font injecter du venin d'abeille pour éviter l'arthrite.
Ah oui, mais tous les apiculteurs vous diront, ils n'ont pas d'arthrose.
Mais vous faites piquer souvent alors?
Je me fais piquer tous les jours, presque. À travers l'équipement, à travers les gants.
Vous n'allez pas les rassurer là,
Oui, c'est bien, mais bon.
À travers l'équipement et tout, à travers les gants.
Non, mais c'est gros ce que je
fais. Venez visiter moi.
J'ouvre, je sors cadre par cadre et puis voilà, donc c'est différent.
Sinon, vous êtes d'accord avec moi qu'une abeille, si elle vous passe à côté, si vous l'embêtez pas, elle vous embête pas.
Tout à fait.
N'a pas de raison.
Tout à fait. Si là, il y avait des abeilles, par exemple, sur ce cadre de miel, on pourrait les caresser. Mais par contre, si c'est des cadres, si c'est les abeilles du
cadre d'à côté,
enfin, le miel de la ruche en question, eh bien là, c'est pas la même chose. Mmh. Là, elles vont protéger leur miel et défendre
Vous n'avez qu'à répondre à vos textos pendant que vous parlez.
Non, mais j'ai mon petit garçon qui essaie de m'appeler depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il veut.
Ah, ben vous, et on va mettre un peu de musique, comme ça vous allez pouvoir lui répondre. S'il faut, il est en train de vous dire, papa, je t'entends la radio.
Il s'est fait piquer.
Ouais.
Ah oui, peut-être.
Non, mais. Encore du Chuck Berry? Non, est-ce que je peux proposer quelque chose, moi?
Si tu veux, mais bon, j'en avais un.
Mais oui, mais on en a déjà écouté deux.
Ah, mais c'est bien, des fois on en écoute trois. J'ai choisi le titre, le titre du film Tarantino de Pulp Fiction.
Ah, bah oui.
Tout le monde connaît You Never Can Tell. C'est un superbe titre.
Allez, ça. C'est parti.
C'est parti.
Ah, bah oui.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Vous avez tous reconnu le titre de Chuck Berry. You Never Can Tell, où il chante un petit pas en français au milieu de
Mademoiselle.
Mademoiselle.
Je suis en train de faire l'expérience du pâté de cochon de les cochons d'abord là avec l'hydromel, et ben figure-toi que ça marche bien, ça va,
ça passe bien.
Ben ouais, mais ouais, ça passe bien. Je me demande si ça passerait bien avec des tomates, mais
oui, sur la tomate mozzarella par exemple.
Oui,
mais bien sûr, la tomate, parlons-en, même si c'est pas vraiment la pleine saison hein, pour l'instant elles sont encore en train de pousser. Même produit, mais deux classifications très différentes. Selon les botanistes, la tomate est un fruit, puisque ce dernier se définit comme un produit végétal succédant à la fleur et qui renferme les graines de la plante.
Ah, c'est ça un fruit.
Voilà. Mmh. Alors, même que la tomate se mange salée et qu'elle est rangée parmi les légumes dans les supermarchés, elle reste stricto sensu un fruit.
Pourquoi alors un légume, ça vient pas après une fleur et ça contient pas les graines? Qu'est-ce qui définit un fruit d'un légume?
Un produit végétal, ouais, qui succède à la fleur et qui renferme les graines de la plante.
Bon, alors une courgette est donc un fruit également?
Oui.
Une carotte est un légume?
Oui,
c'est une racine.
Botaniste,
ouais. D'accord.
Au niveau de la botanique.
T'es sûr de ça toi Aurélien, t'es d'accord avec moi?
Oui, l'histoire des graines contenues dedans, ouais, c'est ça. Ouais.
Un petit
ouais,
les, c'est ce qui va définir. Les petits pois, c'est des légumes, c'est ça? Petits pois.
Oui. C'est quoi, légumes, c'est pas un fruit quand même.
Le reste fruit, oui.
D'accord. Mais du coup, une courgette, c'est un fruit.
Ben aussi. Il vérifie.
Un concombre, Aurélien. Un concombre, c'est
mais
un
vous
fruit.
Vous avez qu'à dire que je raconte n'importe quoi.
Un cornichon, c'est un fruit. Ben un cornichon, dedans il y a les petites graines.
Bon. produit végétal succédant à la fleur. Il m'agace.
Mais oui.
Pourtant, et oui, aux États-Unis, il faut rien comme les autres. De l'autre côté de l'Atlantique, son sort est tout autre. La tomate y est un légume. Pourquoi ? Pour des raisons fiscales.
Ah,
voilà. La Cour suprême, saisie d'une contestation sur la nature de la tomate, a tranché dans une affaire célèbre qui date de 1893. L'affaire était simple. Les plaignants refusaient de payer une taxe sur les légumes au trésorier du port de New York. Arguant de l'objet du litige, la tomate était un fruit. Et en tant que tel, il échappait à la taxe. Que nenni, dirent les juges, la tomate est un légume, la taxe fut payée et la tomate est donc toujours considérée comme un légume au pays de Trump aux États-Unis.
D'accord.
Cela dit, est-ce qu'il faut vraiment s'étonner de ça? Parce qu'il faut savoir que la pizza aux États-Unis est aussi considérée comme un légume. Puisque la tomate est un légume. Et comme la pizza comprend quasiment que du concentré de tomate, la pizza est considérée comme un légume. Comme quoi le droit fiscal a parfois des conséquences. Je raconte pas n'importe quoi.
Non, non, mais c'est vrai, parce que je sais que là-bas,
enfin, c'est des fantaisies
dans
américaines.
Dans les écoles, aberrant, par exemple, dans les restaurants scolaires, ils ont décrété que dans un hamburger, il y avait du ketchup, donc ça suffisait, c'était voilà, équilibré, puisqu'il y avait des légumes.
C'est ce genre d'aberration aux États-Unis. Cela dit, ils ont élu Trump, donc il faut quand même pas s'étonner non plus.
Au bout d'un moment,
voilà.
Ça va finir par se voir.
Ça attaque le cerveau.
Il y a un burger, il y a de la salade, il y a des cornichons.
Ouais, c'est des légumes.
C'est équilibré.
C'est des légumes de la journée, ouais, de le burger. Mmh. Ouais.
Donc la tomate.
Voilà, la tomate, c'est tout. la tomate est donc un fruit.
D'accord. Parce que le fruit, en botanique, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines.
Voilà.
D'accord. Eh bien, alors un concombre, un cornichon, il y a des graines dedans. On est bien d'accord. Pour la courgette est une plante herbacée de la famille des cucurbitacées. C'est aussi le fruit comestible de cette plante. Mais pour nous, c'est un légume, mais c'est le fruit comestible de la plante.
Ça reste un fruit.
Ça reste un fruit, d'accord. Merci Maître Capello Vichy. Merci Wiki. Merci Wiki. On n'a pas dit combien ça coûtait, cet hydromel là. C'est dans des petites bouteilles très jolies, fabrication maison, de 50 centilitres.
Voilà, c'est ça. Je suis à 8 euros la bouteille.
Ouais.
Après, il y a des hydromels beaucoup plus chers, hein, mais voilà, c'est un produit de qualité. J'ai choisi une bouteille de 50 centilitres parce que je trouve que c'est. On l'apprécie plus comme ça.
Oui, c'est
on le fait durer.
Plus,
ouais. Voilà. Vous avez une grosse production?
Non,
ça fait durer
production. Je tourne avec 4 fûts. 4 fûts de 240 litres à peu près.
D'accord, donc 500 bouteilles.
800 litres.
Hein? 800
bouteilles.
800 bouteilles. Non,
ouais, voilà,
1000. 1600 bouteilles. C'est 50 centilitres.
Il y a de la perte quand même. Il y a de la perte.
Ah, vous buvez, vous goûtez à chaque fois.
C'est ça, ouais. Et... non, il y a des bouts, on ne se rend pas compte, mais les dépôts... des levures qui meurent, tout ça, donc font un dépôt.
D'accord.
Voilà, c'est.
Est-ce que ce dépôt, vous pouvez le réutiliser, je sais pas, moi, faire du pain d'épices, des trucs?
Ah, non, ça jette.
Comment on fait le pain d'épices? Vous faites du pain d'épices?
Oui, on fait du pain d'épices et on met que du miel. Voilà, tout ce que vous achetez dans le commerce, c'est pain d'épices, il y a
beaucoup de
80%
sucre,
de sucre.
Rajouté,
et puis, on va dire 3% de miel ou 4%. Je vous donne une idée, pour un kilo de farine, on met 1 kg 300 de miel. Il faut qu'il transpire le miel. Il brille de miel.
David, quand on dit on, c'est qui?
On, moi et mon épouse.
Ah! J'ai eu peur que jamais vous n'en parliez de votre épouse, parce que je me suis dit, quand elle va dire, ah oui, vas-y, passe à la radio, ça fait quand même...
Une épouse comblée.
Plus d'une heure qu'il est là.
Je suis marié avec une brésilienne.
Elle l'a déposé en bagnole, en bas, il est arrivé en retard, donc elle est partie se garer, elle sait pas, elle a toujours pas trouvé de place, parce qu'à Montauban, pour trouver une place un vendredi soir, t'as compris. Et il parle même pas d'elle, c'est elle qui fait le pain d'épices. Enfin, David.
C'est vrai. Non, elle me soutient énormément dans mon travail, elle m'épaule jour après jour.
Une brésilienne.
Une vraie. Je suis allé la chercher à Salvador de Bahia.
Ah oui.
Ouais.
Alors, tout bien.
Ouais, je parle portugais sur la torture quand même.
Comment tu te perds?
Mais ça fait beaucoup rire quand même au Brésil ce sketch.
Même là-bas ça veut ah ouais.
Ouais, parce que bon les Portugais sont c'est pas trop top quoi. Et oui, c'est eux qui ont colonisé la
ouais.
Le Brésil.
Ouais,
donc, voilà, c'est un peu normal. Historique
ouais. Rancune.
De la gelée royale.
Oui, alors gelée royale. Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors la gelée royale, c'est quand on fait un élevage de rennes. Quand on fait l'élevage de rennes, donc on va enlever
rennes,
la larve.
Pas le truc du.
Et
Père
on
Noël,
va récupérer la gelée royale. La gelée royale, il faut une ruche qui rentre beaucoup de pollen. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère de la gelée royale dans les cellules royales.
D'accord. Directement.
Voilà. Après voilà, ça c'est aphrodisiaque hein, par contre. Hein. Ah oui, voilà. ça marche. C'est parce que c'est. Je vous donne un exemple. Une fois, j'en ai mis en petit pot là, et puis chaque fois qu'il en restait, je mangeais quoi, ce qui restait de la cuillère. En gros, j'ai pris.
Les enfants, éloignez-vous des pots.
J'ai pris une grosse cuillère, en gros, comme une cuillère à café. J'avais mon cœur qui battait la chamade.
Ah oui,
quand ouais, c'est vrai. Il s'emballait donc.
Du Viagra naturel.
Voilà, mais sauter partout après.
Mais, oui. Mais votre compagne, du coup, vous l'avez rencontrée avant de faire tout ça ou...
Non, ça y va bien. Non, je faisais ça déjà avant.
Ah, oui, on a bien compris.
Oui, ça me tient en forme, l'apiculture.
Le rucher de Naples. Naples n'est pas en Italie, mon cher Aurélien. Naples est quelque part en Haute-Garonne. C'est un petit hameau de 4 à 5 baraques. Il n'y a plus depuis longtemps de cabines téléphoniques. Elles ont été remplacées par des ruches.
Bon, au début, je croyais que c'était parce que notre invité avait des origines napolitaines.
Ah, ma mère est sicilienne, c'est vrai.
Ah, bah,
mon père est polonais, mais ma mère est sicilienne. Donc,
un père polonais, mère sicilienne, femme brésilienne.
C'était le feu à la maison.
Ah ouais.
S'ils m'entendent, je vais passer un mauvais quart d'heure.
C'est clair. En tout cas, c'est drôlement bon, cette boisson au miel, parce qu'il y a écrit boisson au miel, sur, c'est un, comment dire, c'est un affichage obligatoire, ça, boisson au miel?
Non, ce que vous avez écrit. Ça fait partie de ce qu'on met sur une étiquette, ouais.
Ouais.
Pour expliquer un peu aux gens, quoi. Parce que hydromel, il n'y a pas le mot miel, hein. C'est un peu.
Ouais.
Non. Enfin,
vous pensez que les gens savent pas ce que c'est que l'hydromel, carrément?
Ils savent pas, ouais. Des fois, je dis, vous voulez boire de l'hydromel, qu'est-ce que c'est?
Ah ouais.
Ils connaissent pas, ça s'est perdu. C'est vraiment perdu. Vous allez au supermarché du coin, vous demandez une bouteille d'hydromel, vous n'allez pas trouver.
Non, mais ça, bien sûr.
Ouais, mais même...
Déjà, du Coca, des fois, il n'y en a pas. Ils vendent que du Pepsi.
Bien sûr, mais c'est pas pareil. En tout cas, l'ambiance est conviviale ici. Autour. Je ne sais pas si c'est l'hydromel qui fait ça, mais...
Oh, il doit y contribuer.
Il doit y contribuer, ouais.
Je ne voulais pas écouter un disque, moi. Je voulais écouter un disque.
Oui, mais tu m'as pas dit quoi?
Eh ben parce que je sais pas quoi.
Ah ben oui.
J'ai des propositions à vous faire. Parce que, donc, vous avez le choix entre deux festivals. Comme ça, on va... Soit Let's Doc, la semaine prochaine à Cahors. Soit le festival des Voix du 15 au 25 juin à Moissac.
Les Voix, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être.
Alors, les Docs à Cahors. Donc, dans les Docs à Cahors, vous avez sur la première soirée, par exemple, Radio Elvis, mais ils étaient nos invités dans PCV toute la semaine, donc je vous épargne. On les a entendus trois fois par jour. Vous avez Arnaud, qu'on a passé à plusieurs reprises. Arnaud, le célèbre chanteur belge, qui a chanté Les Filles du Bord de Mer. Moi, j'aime beaucoup ce morceau-là, par exemple, donc j'aurais pu vous proposer celui-ci.
Ou La Fille du Père Noël.
Il a repris La Fille du Père Noël de Dutron, effectivement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lavillier, qui jouera dimanche, aussi Bernard Lavillier, et qui sera en duo avec son percussionniste. Donc, peut-être un petit morceau de Lavillier. Hein?
Ouais. Dis pourquoi.
Bernard Lavillier, vous aimez
bien
ça? Allez, c'est parti.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette. Portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts
chauffée par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Reprise de Bernard Lavilliers en concert à Let's Doc dimanche à Cahors. Je vous rappelle que ça démarre dès vendredi, enfin dès jeudi il y a des choses, mais vendredi on a des places à vous offrir pour aller voir Arnaud et Radio Elvis. Si ça vous branche, vous appelez Illico Presto au 05 63 930 020. On vous prendra pas à l'antenne parce qu'on n'a pas le temps, mais on vous offrira deux places. Voilà. Bah oui. Ah bah, tu veux appeler là, c'est ça. Je te dispense d'appeler, je t'offre deux places, voilà.
Ah, merci.
Voilà. Vous pourriez, si vous en aviez envie, pour la fête des pères prochainement, inviter votre papa à aller manger au Capucin.
Voilà nos voies faire. J'ai soulé cette semaine à l'abbaye des Capucins à Montauban, cette superbe bâtisse, qui est un ancien couvent du XVIIe siècle, reconverti en hôtel 4 étoiles avec un spa, la salle de gym et tutti quanti. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le restaurant. J'y suis allé pour voir notre ami Pierre Cantegrel, le patron du Faubourg 73, le lieu où l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste a festoyé et s'est régalé pendant des années.
Il nous a abandonné. On faisait nos réunions de rédac.
Tout à fait.
Au Faubourg 73.
Et on faisait des off d'émissions après.
Et voilà.
Ça fait quelques mois que Pierre a pris la direction des cuisines de l'abbaye et je lui ai laissé le temps de s'installer dans sa nouvelle demeure. Résultat de la qualité et du goût, à la mode bistronomie, hein, cher à Pierre, ça tombe bien, nous sommes au bistrot des Capucins. Sur la carte, eh bien, on retrouve ses classiques, le foie gras de canard au piquillos, notamment l'onglet de bœuf en croûte, et j'en passe, bien sûr, la côte de cochon ibérique pata negra.
Ah, ça, c'était parfait.
C'est la carte. Et quelque chose m'a fait sourire en bas de la carte, un petit astérix qui renvoie au plat à faible calorie. Il y en a un seul concerné. Et on connaît Pierre, hein. Ce sont les huîtres. Sur toute la carte, t'as rien d'autre à faible calorie. Ça m'a un peu surpris, ça.
Les huîtres au Gilardon.
C'est ça. La terrasse est agréable avec la piscine de l'hôtel à proximité. C'est calme et élégant. Mais au niveau prix, c'est finalement assez accessible. N'ayez pas peur de la réputation de luxe de l'établissement. Et vous pouvez aller passer un bon moment à Montauban, à l'abbaye des Capucins.
J'ai regardé les prix,
c'est tout à fait raisonnable.
C'est tout à fait raisonnable.
Bah, par exemple, la côte de cochon ibérique, pata negra. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très, 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 très bon. Elle est à 23, même pas 23 balles, elle est à 19 balles. 19 euros.
Il y a beaucoup de plats à 14-15 euros.
Ouais, voilà.
Le plat du jour est à 14 euros.
Sinon, il y a le menu à 39 euros, un très plat dessert.
Ouais, c'est pas très cher. Moi, ce qui me manque à l'abbaye des Capucins, c'est Pierre Cantegrel. Il est en cuisine, tu le vois pas.
Et oui, mais on avait l'habitude de le voir.
Donc, tu gardes sa cuisine. C'est super. Tu l'as dans l'assiette. On reconnaît très bien la cuisine à Pierre. On reconnaît. C'est lui qui
est habitué de le voir.
Mais nous, on aimait bien lui taper dans le dos, boire des coups avec lui à son comptoir. En fait, il manque un comptoir à l'abbaye des Capucins pour un côté très super convivial, quoi.
C'est sûr.
Ouais, c'est plus le comptoir. Mais bon.
À la fin du repas, tu demandes à le voir, Pierre, quand il a le temps.
Ouais, non, j'ai toujours peur de tâcher un peu les fauteuils, moi.
J'ai une petite information à donner. Demain, c'est journée porte ouverte au Château Belle Vue la Forêt entre Grisolles et Fronton. C'est ouvert samedi et dimanche avec samedi orchestre de jazz et visite déchets, explications et dégustations. Et le dimanche, il y a exposition de voitures de luxe.
Également journée porte ouverte donc au Rucher de Naples, au Burgo, dans le 31. On est à 30 minutes hein, de Montauban, direction Verdun-sur-Garonne, et on part par là-bas, ouais, là, dans le vers le sud-est. Hein,
voilà, Savenès. Ouais. Et à côté de,
au Burgo. Merci beaucoup, David Makarovski, de nous avoir apporté votre miel et votre hydromel. Et bravo pour votre travail. Et j'espère que vous vous remettrez des 50 ruches que vous avez perdues. Et n'hésitez pas à aller aux journées portes ouvertes de notre part. Merci et à bientôt.
Merci à vous.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste ? La semaine prochaine, on va au bord de l'eau. Dites donc, on va pique-niquer à Saint-Antonin. Ouais, on va être les pieds dans l'eau, ça va être cool. Et ce sera à la base Actio Vive. À la semaine prochaine.